Nous allons lire ce soir dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. C'est une des lettres qui se trouve dans la parole de Dieu, qui fait partie de celles qui sont les plus courtes. Il y a seulement 15 versets qui composent cette lettre. Et nous pourrions peut-être penser que, vu qu'elle est tellement brève, elle n'a pas beaucoup d'importance. Mais en réalité, le contenu de cette lettre a des choses à nous dire qui sont précieuses et que nous avons besoin de serrer aussi dans notre cœur afin de vivre d'une manière conforme à ce qui nous est révélé au travers de ce que Jean a écrit. Je vais commencer par considérer avec vous la manière dont Jean se présente. Il y a une grande différence entre lui et ses collègues apôtres. Citons par exemple quelques-uns d'entre eux. Lorsque Pierre se présente, dans sa première épître, il dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ ». Dans sa seconde épître, il dit « Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». Lorsque Paul s'adresse à certaines églises, comme Éphèse, Philippe ou Corinthiens, à quelque chose près, il dit toujours la même chose, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il y a une petite différence lorsqu'il s'adresse à l'épître aux Galates, et il dit ceci, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni de la part ni de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Jacques lui-même, eh bien, quand il se présente, dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas son nom qui est mentionné. D'ailleurs, si vous lisez la première lettre, la première épître de Jean, eh bien, il débute tout de suite dans le vif du sujet et il commence ainsi, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, voilà aussi ce que nous vous annonçons. Et il est simplement possible de discerner que c'est Jean qui a écrit cela, parce que dans sa première épître, il y a de nombreuses ressemblances avec ce que nous trouvons dans son évangile, qui lui est vraiment bien défini, et on sait très bien que c'est lui qui l'a écrit. Ici, il dit l'ancien. C'est-à-dire que, vous savez, probablement que c'était dû à son grand âge, d'une part. Deuxièmement, parce que c'est le titre que l'on donnait à ceux qui avaient une responsabilité aussi dans les églises. Et troisièmement, parce qu'il veut mettre en relief, disons, son autorité apostolique en tant que personne qui a été témoin oculaire de la vie du Seigneur Jésus. Et il s'adresse uniquement à une personne. Trois lettres différentes. Dans la première lettre, il s'adresse à une communauté d'église. Dans la seconde lettre, il s'adresse à une femme et à ses enfants. Certains ont prétendu que cette femme, Kyria, était un type de l'église. Mais ça, c'est une pensée qui peut-être est vraie, mais en tous les cas, moi, je m'en tiens à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit nous présente une femme et ses enfants à qui Jean adresse une lettre et des exhortations. Et là, eh bien, c'est simplement à un individu. Il s'agit de Gaius et il donne une définition de l'état d'esprit dans lequel se trouve Gaius. Il dit « le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur ». Et je voudrais insister sur ce point. Il lui-même insiste particulièrement sur cette expression, car sur les 5 premiers versets, eh bien, 3 fois, il dit de Gaius que c'est le bien-aimé. Au verset 1er, au verset 2 et puis au verset 5. Chaque fois qu'il interpelle, il interpelle de cette manière-là en disant le bien-aimé. Mais je voudrais souligner quelque chose. Cette expression-là est très forte. Nous avons du mal à nous en rendre compte au travers des traductions que nous avons à notre disposition. Mais il s'agit de quelqu'un qui est animé non pas de l'amour fraternel, mais de l'amour de Dieu, qui est un don particulier qui est mis en nous par l'action puissante du Saint-Esprit. Et nous savons tous que la caractéristique de l'amour de Dieu, c'est qu'il donne, il pardonne. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons, ne tient pas compte de ce que nous pouvons accomplir, comme si quelqu'un, en faisant de bonnes œuvres, pourrait attirer l'amour de Dieu. Non, Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Et Gaius, le bien-aimé, Jean l'aime de cette manière-là. Il y a une intimité entre ces deux hommes-là, parce que Jean sait quelle est la conduite, le comportement, la manière d'être de Gaius, qui est probablement un responsable de cette église. Mais je me suis posé la question, comme peut-être vous avez pu vous la poser, s'il vous est arrivé de lire en méditant ce texte de la parole de Dieu, mais ce Gaius en question, qui est-il? Est-ce que nous pouvons savoir quel est ce personnage? Vous savez, il ne nous est rien dit dans la Bible à ce sujet. Sauf que il y a plusieurs Gaius qui nous sont présentés dans les Écritures. Il y a un fameux Gaius de Corinthe, et Paul, dans son épître aux Romains au chapitre 16, va avoir une parole pour lui, et il lui adresse des salutations, et il dit qu'il a été l'hôte de l'apôtre Paul. Ensuite, il y a un fameux Gaius de Derbe. Et ce Gaius de Derbe, eh bien, c'est celui qui a voyagé avec l'apôtre Paul quand il avait pour destination d'aller en Asie. Gaius l'a accompagné. Puis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, il est parlé d'un autre Gaius. Et ce Gaius-là, eh bien, il a été entraîné lorsque, vous le savez pour l'avoir lu dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, l'apôtre Paul s'en est pris à l'idolâtrie qui existait dans la ville d'Éphèse. Et comme il a parlé très fortement de la part de Dieu en montrant à ces Éphésiens qu'ils étaient dans l'erreur parce qu'il y avait la construction d'un temple formidable, majestueux. Il était considéré à l'époque comme une des sept merveilles du monde de l'époque. Et à l'intérieur de ce temple, il y avait Artémis, qui est la déesse de la fertilité, et tout le monde adorait cette déesse, particulièrement au mois de mai. C'est curieux, c'est pas pour cela que j'ai choisi de vous parler de ça aujourd'hui, mais c'était une fête annuelle qui rapportait à tous ceux qui étaient, initiés dans cette religion-là, une fortune. Parce qu'il y avait des orfèvres qui faisaient des petits temples qui représentaient cette déesse et les gens gagnaient beaucoup d'argent, en tous les cas, ceux qui faisaient cela et qui pratiquaient aussi cette religion-là. Mais quand l'évangile est venu, eh bien, l'évangile a secoué l'esprit d'idolâtrie qui se trouvait à Éphèse et il y a eu une sorte de révolution parce que un personnage qui était là et dont nous allons parler dans un instant, Démétrius, eh bien, lui-même a s'est mis en colère contre l'apôtre Paul et il a soulevé la foule contre lui en disant tout simplement que cet homme amenait un autre système de croyance. Et il a dit, c'est un danger pour notre industrie. Vous voyez, la religion et la politique, ça fait pas quelque chose de bien. C'est un danger pour notre industrie et il faut que nous arrêtions cela. Alors, la foule s'est soulevée et au moment où la foule s'est soulevée, en portant beaucoup de personnes, Gaius, qui était aussi avec l'apôtre Paul, a été pris dans la foule et il a été entraîné. Heureusement que quelqu'un d'un peu sage s'est levé et il a fait un contre-discours en disant « Mais pourquoi écoutez-vous Démétrius ? Si Diane est si puissante que vous le pensez et que vous le dites, mais c'est à elle à défendre sa cause. » Et cet homme sage a en quelque sorte ralenti cette sorte de révolte, mais ce que nous savons, c'est que Gaius avait été entraîné, malgré lui, c'est pas que lui participait à cette révolte, mais il a été entraîné par la foule. C'est les seules fois où on parle de Gaius. Donc vous avez remarqué trois personnages différents. De quel s'agit-il dans cet épître? Je n'ose dire que c'est l'un d'entre eux. S'il fallait choisir, je prendrais justement ce dernier-là. Mais comme c'était une habitude, vous savez, à Rome et à cette époque, le nom de Gaius était très commun. Il y en avait beaucoup. C'est la raison pour laquelle, finalement, à quoi cela nous servirait-il de savoir qui est Gaius? Ce que nous voulons relever ce soir, c'est ce qu'il était. Qui est Gaius? C'est une chose, mais ce qu'il faisait, ça, c'est ce qui est important. Et ce qu'il faisait est souligné par l'apôtre Jean. Il lui dit simplement ceci, « Toi, le témoignage est rendu de la manière dont tu marches dans la vérité. » Et en ce qui me concerne, dit Jean, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il n'y avait pas que cela qui caractérisait Gaius. Mais cela vaut la peine quand même d'être souligné. Car voyez-vous, il y a des choses que nous pouvons connaître d'une manière théorique. Mais ce qui est important, c'est quand nous transformons ce que nous savons d'une manière théorique en un acte précis, en un acte concret. La foi, elle est visible par certaines choses qui sont concrètes et que les autres peuvent constater. C'est la raison pour laquelle je dirais que de la même façon que Jacques parle aussi de la valeur des œuvres, sans pour autant dire que les œuvres contribuent au salut, chose que nous connaissons tous. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons des œuvres. Et Jésus lui-même a dit, c'est un message et une parole que nous mettons souvent en exergue, il a dit, attention, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Et Jacques, lui, reprend l'enseignement, je dirais, de son grand frère Jésus, et en reprenant cet enseignement, il dit « La foi sans les œuvres, elle est morte ». Et s'adressant à quelqu'un, peut-être de l'église à laquelle il écrit, il dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres ». Et ça c'est très important, que nous comprenions que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement quelque chose qui est là au niveau de notre intellect, qui nous permet aussi d'avoir la connaissance d'une saine doctrine. Attention, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de diminuer la valeur de la doctrine. La doctrine, c'est essentiel. La doctrine, c'est la colonne vertébrale de l'Église. C'est ce qui, effectivement, donne une certaine structure. La doctrine est importante, mais connaître la sainte doctrine, si nous ne la vivons pas, si nous ne la pratiquons pas, si cela ne se traduit pas par des actes concrets, au travers d'œuvres réelles, eh bien, ça fait de nous des chrétiens de nom, mais qui n'honorent pas Dieu et qui ne glorifient pas Dieu. Or, justement, Gaius, eh bien, il était rendu de lui un témoignage formidable et il ne cessait de progresser et de prospérer dans le domaine spirituel et au niveau de l'état de son âme. Ce qui a permis à Jean de dire, de la même façon que je vois que tu progresses dans le domaine spirituel, je souhaite aussi que tu prospères dans le domaine physique. Je m'arrête ici un instant pour dire, mes frères et sœurs, si nous avions un tel désir les uns pour les autres, demandant au Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur, non seulement à prospérer dans le domaine spirituel, mais aussi, peut-être pour certains, dans le domaine matériel, mais aide-les aussi à prospérer dans le domaine de la santé. Parce que nous avons à veiller les uns les autres de cette manière-là, et l'amour que Jean a pour Gaius le pousse à prier le Seigneur, à invoquer le nom du Seigneur pour que les progrès qui sont déjà visibles continuent à se manifester au niveau spirituel, mais que aussi au niveau de sa santé, il puisse trouver ce dont il a besoin et qu'il prospère en étant certainement guéri par le Dieu Tout-Puissant. Mais ce qu'il souligne, c'est son comportement. Le comportement qu'il a à l'égard des frères et sœurs dans l'Église et de ceux qui viennent visiter l'Église, même quand il s'agit des frères étrangers. Et j'ai remarqué dans cette lettre, les frères étrangers, qui ça pouvait-il bien être ? Un peu plus loin, il dit, ce sont des gens qui voyagent et il est dit qu'ils sont à l'œuvre pour le nom de Jésus-Christ et ils sont partis sans rien recevoir des païens. Voici, si toutefois nous n'étions pas convaincus de cela, ce qui arrive à certains hommes qui à un moment donné prennent conscience qu'ils n'ont plus besoin d'être soutenus par la voix de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, par une profession, comme tous les autres peuvent avoir une profession, mais qui se donnent entièrement au Seigneur. Et à l'époque, il n'y avait pas les associations comme aujourd'hui, qui permettent le soutien des pasteurs, qui permettent le soutien des anciens. Mais, comme on disait souvent, ils marchaient par la foi. Mais la foi, justement, elle n'était pas vaine parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur quoi ? Sur l'hospitalité des chrétiens qui prenaient conscience de ce fait. Et les chrétiens, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand ils voyaient un serviteur de Dieu qui voyageait, qui n'était pas soutenu par qui que ce soit et surtout pas par les païens, eh bien, il l'accueillait dans la maison. L'hospitalité fait partie des devoirs de tous les chrétiens. Ça, c'est une œuvre pratique qui met en relief que lorsque nous avons une foi authentique et que nous croyons à certaines vérités bibliques, nous pouvons rendre concret ces choses-là en étant hospitaliers. Ce n'est pas pour rien que finalement, une des recommandations que Paul a faites pour les anciens, ce qu'il appelle les évêques, eh bien, c'est d'être hospitalier. Et même lorsque Paul exhorte Tite en lui demandant de rechercher pour mettre en place des anciens dans l'Église, il lui donne aussi cette recommandation. Et il dit, bien, fais bien attention à ce fait. Parmi les autres qualités, sobre, vraiment plein d'amour, de compassion, de miséricorde, il dit aussi, entre autres choses, hospitalier. Pourquoi est-ce cela tellement important ? D'ailleurs, un peu plus loin, dans cette même lettre, vous avez dû le remarquer, il est dit, il faut recevoir d'une manière digne du Seigneur. Et le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, nous dit ce que c'est que de recevoir quelqu'un d'une manière digne. Et Jésus dira simplement dans cet évangile, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » C'est-à-dire que les chrétiens doivent prendre conscience que lorsqu'on reçoit un autre chrétien, et vous savez, c'est pas toujours dans le but de festoyer, ce n'est pas toujours dans le but de passer un bon moment, ce n'est pas toujours dans le but de passer un moment de divertissement, pas toujours dans le but non plus de prendre contact avec ceux qui nous sont sympathiques, que nous aimons, que nous approuvons peut-être dans leur comportement. Non, non, c'est dans un autre but. C'est aussi dans le but de se faire du bien dans le domaine spirituel. Et j'ai l'impression que dans un certain sens, cette vérité-là a perdu de sa saveur, a perdu de sa valeur. Et recevoir quelqu'un comme si c'était le Seigneur, ça, c'est la dignité de laquelle parle justement l'apôtre Jean. Et remarquez que dans ce même évangile de Matthieu, là je vous ai cité chapitre 10 et au verset 40, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 35, Jésus va parler de ce temps où certains vont se trouver devant lui. Alors, il y en a pour qui le message est très négatif. Ils n'ont pas fait ce qui devait être fait. Mais pour d'autres, il dit, Vous m'avez reçu, vous m'avez accueilli, j'étais en prison et vous êtes venu me rendre visite. J'étais dans telle situation et vous êtes venu me secourir. Et les disciples répondent, ou en tous les cas ceux à qui ils s'adressent à ce moment-là, eh bien vont répondre, mais quand avons-nous vu en prison? Quand avons-nous vu dans telle situation difficile? Quand est-ce que cela s'est produit? Et Jésus va répondre, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il dit, chacun de ceux qui agissent de cette manière-là, eh bien, seront récompensés. Et il dit, si vous recevez quelqu'un en qualité de prophète, vous recevrez une récompense de prophète. Si vous recevez quelqu'un en qualité de notre personnage d'apôtre, vous recevrez une récompense d'apôtre. Et il dit, quoi qu'il en soit, même un verre d'eau tendu à mon nom ne manquera pas d'avoir une récompense. Et Gaïus faisait partie de ces gens-là qui ne pouvaient pas souffrir que quelqu'un passe chez lui et puis soit dans le besoin. Il avait une attention particulière et il recommandait, parce que c'est ce qu'il enseignait, c'est mis en évidence dans cet épître, il enseignait aussi aux autres à avoir cet esprit-là, cette mentalité-là, cette manière d'agir-là. Et Jean en est réjoui et il remercie le Seigneur pour cela. Et il dit, tu fais bien d'agir de cette manière-là. C'est un encouragement. Tu fais bien d'agir de cette manière-là, parce que c'est comme cela que nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. C'est-à-dire que nous pouvons participer au service de Dieu de différentes manières. Tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde peut tendre la main à quelqu'un. Tout le monde peut être hospitalier. Et tout ça, ça fait partie justement du caractère que le Seigneur désire que le chrétien puisse avoir. Et puis, d'un seul coup, alors, quel contraste! Apparaît un autre personnage. Verset 9. « J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne me reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous de méchants propos. » Tiens, c'est curieux. Jean, le disciple de l'amour, il dit, quand je vais le voir, je vais lui dire ce que je pense de lui. Et il met en évidence, il parle très vrai, vous voyez, il dit, il parle, il donne de méchants propos. Il aurait pu cacher cela. Il aurait pu ne pas parler de cela. On a l'impression qu'il est en train de diffamer. Non, ça correspond à la vérité. Et quand il parle de ça, c'est parce qu'il a montré un exemple. Il a montré l'exemple de Gaïus. Et maintenant, il veut montrer l'exemple de quelqu'un qui est en pleine contradiction avec l'enseignement que, justement, Gaïus donnait dans l'Église. Et ce Diotrephe, qui était-il? Eh bien, c'était certainement un autre responsable d'une communauté. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait des églises dans différentes maisons. Lui, il était le responsable d'une certaine communauté. Mais, voyez-vous, c'était un autocrate. Il pensait qu'entre Dieu et les autres, eh bien, il était le seul canal. Il ne voulait pas recevoir les autres. Et finalement, faisait peut-être partie de ceux que je stigmatisais un peu au début de cette méditation, quand précisément je parle de ceux qui sont très attachés à la saine doctrine, mais sans une vie d'amour, sans une vie concrète, dans des actes qui honorent et qui glorifient Dieu. Lui, c'était la première place qu'il voulait. C'était l'estrade qu'il voulait. C'était justement avoir une certaine respectabilité, être honoré par les autres. Et il était insoumis par rapport à justement les autres qui voulaient lui donner des conseils. Parce que quand il y en avait qui voulaient lui donner des conseils, avez-vous ce qu'il disait? Eh bien, il est dit que non seulement il ne recevait pas, mais encore il mettait dehors ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ça, c'est une manière curieuse d'agir, n'est-ce pas? Diotref avait cette caractéristique-là, probablement avec une saine doctrine, mais avec cette mentalité, c'est moi le chef, c'est moi le premier. Et il n'acceptait pas que, par exemple, un apôtre comme Jean lui-même puisse lui donner certains conseils. Jean avait écrit, et probablement que c'est la seconde lettre que Jean avait écrite, qu'il avait voulu faire passer, mais la lettre, elle n'avait pas été lue. Et Jean l'a appris, et il empêche et chasse de l'Église les frères qui voudraient simplement recevoir d'autres. C'est curieux cela, hein? C'est-à-dire un homme qui faisait de l'Église une sorte, de vase clos. Nous sommes, nous, les petits saints, les autres. Non, on ne peut pas les recevoir, on ne peut pas les accueillir. Nous sommes les meilleurs. Les autres, il faut faire attention. Cette mentalité-là, c'est terrible. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est vraiment un sujet de prière. Nous ne devons pas avoir un esprit qui nous conduise à l'isolationnisme, c'est-à-dire à être séparés. Vous savez, il n'y a aucune église qui est parfaite, vous êtes d'accord avec moi? Et même si nous prenons position pour la vérité, parce que l'unité ne peut être possible que dans la vérité, et l'apôtre ici parle de l'amour dans la vérité, il faut que les points essentiels de doctrine soient communs, même si nous sommes en communion d'esprit avec tout cela, nous devons savoir quand même que nous ne sommes pas les seuls, que nous ne sommes pas les seuls. Et il faut bien pouvoir, tout en gardant les yeux sur le Seigneur et être dépendant de la vérité, être capable aussi de pouvoir s'ouvrir. Vous voyez, Gaius, il s'ouvrait aux autres. Il s'ouvrait aux étrangers qui passaient. Et là, la contrepartie, je dirais, l'opposé, c'est Diotref, qui non seulement ne s'ouvrait pas, mais se fermer, lui, à ce qu'il pouvait recevoir de la part des autres, et fermer l'Église aussi aux enseignements qui auraient pu être bénéfiques de la part des autres. Et cette attitude-là, eh bien, Jean la condamne. Et comme il s'adresse à Gaius, je vous ai dit, il s'adresse à un individu, il lui dit, bien-aimé, n'imite pas le mal. Le mal, c'est ce que fait Diotref. Mais le bien, celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ça fait réfléchir cela. Ce sont quand même les œuvres dans lesquelles nous avançons qui mettent en relief si nous sommes de Dieu ou si nous ne sommes pas de Dieu. Ce n'est pas le titre d'une dénomination qui fait de nous d'authentiques ou véritables chrétiens. C'est notre manière de marcher dans la vérité qui fait de nous d'authentiques et véritables chrétiens. Donc nous avons eu l'exemple de Gaius, nous voyons l'exemple de Diotref, Diotref qui avait le verbe haut, qui savait démolir aussi les autres, et puis à un moment donné, alors on arrive à la dernière partie de ce chapitre, très court, eh bien, il nous est présenté un troisième personnage, Démétrius. Je pense que ce Démétrius-là, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je vais partir sur cette base-là. Imaginez, Démétrius, c'est celui qui a soulevé la foule contre les apôtres. Il était un idolâtre. Et là, eh bien, il nous est présenté comme un serviteur de Dieu, dont tous rendent un bon témoignage, dont la vérité rend témoignage, et dont lui-même, Jean, rend témoignage qu'il est un authentique et véritable homme de Dieu. Quelle transformation, hein ? Idolâtre et maintenant serviteur de Dieu, tous la vérité et Jean rendent le témoignage qu'il est un authentique homme de Dieu. Quelle transformation formidable ! De telles transformations, il y en a beaucoup dans la Bible. Après tout, nous parlons beaucoup d'Abraham, Abraham, le père de la foi. Mais qui était Abraham à l'origine ? Un idolâtre, à Ur en Chaldée, un idolâtre, dans une famille d'idolâtres. Mais Dieu l'a pris et il a fait de lui l'homme que nous connaissons. Qui était Paul ? Sinon Saul de Tarse, un persécuteur. Et dans une certaine mesure, eh bien, un idolâtre aussi. Parce que la religion de ses pères était plus importante pour lui que la vérité. Mais il a été changé, transformé, et il est devenu l'homme de Dieu que nous connaissons. Transformation formidable. Mais vous savez, mes frères et sœurs, ce qui m'impressionne, moi, dans ce texte, c'est que Jean savait quelle était l'origine de cet homme. Mais là, il parle d'une manière différente. Et il encourage. Et il place cet homme à un certain niveau, le mettant en valeur aux yeux des autres. Vous savez, mes frères et sœurs, peut-être pourrions-nous aussi penser à certains Démétrius qui sont autour de nous. J'ai remarqué parfois que nous avons du mal à oublier le passé de certaines personnes avant qu'elles ne connaissent le Seigneur. Pourtant, nous savons que leur cœur s'est tourné vers le Seigneur. Nous savons qu'aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Ils sont là, ils louent le Seigneur avec nous. Ils partagent, eh bien, la vie d'Église avec nous. Mais nous savons certaines choses. Ah, ce que nous savons, c'est toujours terrible, hein. Nous pouvons même savoir certaines erreurs commises par certaines personnes qui étaient là, peut-être aussi dans l'Église. Nous pouvons le savoir, des erreurs qui, à nos yeux, étaient graves. Et puis, vous êtes peut-être pas comme moi, mais moi j'ai tendance à dire, ouh là là, faut pas oublier ça, hein. Faut pas oublier ça. Et on se méfie d'une manière constante, permanente, parce que le passé pèse non seulement dans leur vie, mais dans notre cœur. Et à leur sujet, on a une certaine méfiance. Il a fait ça, il a été comme ça, il agit de cette manière. Alors maintenant, eh bien, on est sur nos gardes. C'est vrai qu'il faut être prudent. Et la Bible nous dit que ça, c'est une manifestation aussi de sagesse, d'être prudent. Mais en même temps, quand même, ça vaudrait la peine de souligner l'œuvre qui a été accomplie. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Si vous aviez connu certains messages que j'ai donnés lorsque j'étais un jeune pasteur, vous ne m'accepteriez certainement pas là. Parce que la vie apprend beaucoup de choses et le Seigneur, par son esprit, nous révèle beaucoup de choses. Et beaucoup de choses ont changé. Et ce qui est vrai pour l'un peut être vrai aussi pour l'autre. Et en tous les cas, nous devrions effacer tout ce qui a tendance à placer une suspicion sur quelqu'un à cause d'un acte du passé, mais que la grâce de Dieu a couvert. Quand c'est authentique et vrai, nous devrions pouvoir rendre ce témoignage. Oui, mais la grâce de Dieu a agi maintenant. C'est vraiment mon frère, c'est vraiment ma sœur. Et Jean, il est heureux de parler de lui. Et il dit, j'espère te voir bientôt. Et il ajoute en terminant, que la paix soit avec toi. Vous savez, si il y avait eu dans son cœur un reste de soupçon. Il n'aurait pas été vrai en prononçant cette parole « Que la paix soit avec toi ». Vous savez que c'était une manière de se saluer autrefois. D'ailleurs, dans les églises en Italie, c'est toujours pratiqué comme cela. Quand les frères et les sœurs se rencontrent, ils disent « Pace, fratello, pace, sorella ». Ça veut dire « Paix, mon frère, paix, ma sœur ». C'est leur manière de se saluer. Jésus lui-même faisait comme cela. Shalom. Shalom, même après la résurrection, quand il a rencontré le groupe de disciples dans la chambre haute, alors qu'ils étaient là, enfermés, ils avaient peur, ils avaient encore de la crainte. Et Jésus apparaît d'un seul coup, et il apparaît avec ce message, « Shalom !» Parce que Jésus avait pardonné, parce que Jésus avait réglé la situation, la croix était intervenue, tout était réglé. Et il pouvait dire à ceux qui étaient là, « La paix soit avec vous !» Heureusement, le Seigneur nous le dit à chacun d'entre nous, mais est-ce que nous pouvons le dire en toute vérité à tous nos frères, à toutes nos sœurs? Il faut que nous pensions à cela. Je termine en vous disant, frères et sœurs, l'Église est ce que nous sommes. L'Église est ce que nous sommes. Et si nous voulons une Église telle que nous la désirons, il faut que nous, nous soyons ce que nous désirons que l'Église soit. Il y a trois personnages qui nous sont présentés. Gaius, Diotrephe, Démétrius. À qui ressemblons-nous? Il faut nous examiner et puis voir à qui nous ressemblons. Et si c'est à Diotrephe, le plus vite possible, changeons de position. Nous pouvons prier encore quelques instants.